Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le 24 mars 2022, vous écoutez Le Français sur Radio SBS, Marianne Murat et Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de sport, nous parlerons d'économie également, et nous parlerons également dans cette économie du délai de livraison des voitures neuves, vous allez voir, ça fait peur. Et nous parlerons à Melbourne Accueil qui fête ses 10 ans, mais pour l'heure il est temps de passer au journal, un journal présenté par Marianne. Bonjour Marianne.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 24 mars, Volodymyr Zelensky appelle les citoyens du monde entier à descendre dans la rue et à manifester un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden est arrivé à Bruxelles pour une série de rendez-vous diplomatiques. G7, sommet de l'OTAN, les Occidentaux s'organisent pour accroître les sanctions contre la Russie. Le coronavirus qui repart à la hausse en Australie mais aussi en France. Des scientifiques dénoncent un allègement des restrictions sanitaires trop précoces et enfin, du sport et la retraite surprise de la championne de tennis australienne Ash Barty. Vous nous en parlez dans votre journal des sports, Christophe.
Tout à fait. Allez, on ouvre ce journal avec l'allocution de Volodymyr Zelensky devant les parlementaires français au 28e jour de l'invasion russe.
En visioconférence et durant une vingtaine de minutes, le président ukrainien a exhorté la France à lui venir en aide. « Nous devons agir ensemble », c'est ce qu'il n'a cessé de répéter au cours de son discours, retransmis en direct devant les deux chambres françaises, Assemblée nationale et Sénat. Volodymyr Zelensky qui a également demandé aux entreprises françaises de quitter la Russie. Je cite, écoutez.
Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et d'autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, de financer les viols. Ils doivent cesser de parrainer les pillages de l'armée russe. Toutes ces entreprises doivent se rappeler que les valeurs valent plus que les profits, ces profits qui se font sur le sang. Nous devons déjà penser à l'avenir, à la façon dont nous allons vivre après la guerre. Il faut des garanties fortes que la sécurité soit inébranlable, qu'il n'y aura plus de guerre et que les guerres ne seront plus possibles dans ce monde.
Voilà les propos traduits de Volodymyr Zelensky. Alors ces entreprises qui ont été citées, elles ont immédiatement réagi. D'ailleurs, c'est un peu mitigé, Marianne, tout ça.
Juste après le discours du président ukrainien, la maison mère de Leroy Merlin a annoncé maintenir son activité en Russie, malgré la polémique que cela pose, évidemment. En revanche, Renault annonce la suspension immédiate de sa production de son usine de Moscou. De son côté, Total Energy s'est engagé à ne plus acheter de pétrole en Russie d'ici la fin de l'année 2022. Mais le groupe ne renonce pas en revanche au gaz russe. Ce gaz russe qui représente 80% de sa production d'hydrocarbures et dont l'Europe dépend. Le PDG de Total expliqué chez nos confrères de la radio française RTL.
Les deux décisions de bon sens immédiatement, c'était d'arrêter de faire de l'argent sur du pétrole russe des côtés et la deuxième, d'arrêter d'investir en Russie. Ce que nous avons décidé immédiatement. Après, là où on a eu un débat et qu'on continue à avoir avec les gouvernements, c'est notamment, est-ce que oui ou non, je dois continuer à importer du gaz russe. Le gaz est majeur pour l'Europe. Et je lui ai posé la question et il m'a dit, mais non, nous, gouvernement européen, à ce stade, nous n'avons pas décidé de sanctionner le gaz russe parce que nous en avons besoin. Pourquoi voulez-vous que moi, Total Energy, je décide d'arrêter le gaz russe, alors que je ne sais pas le remplacer. Je n'en ai pas disponible. Et donc, les consommateurs européens se trouvent privés d'un gaz. Si nous arrêtons le gaz russe, nous savons que à l'hiver 2023, nous avons un problème. Il faut être clair, rationner l'utilisation du gaz, pas pour les particuliers, mais sans aucun doute pour les industriels en Europe. Par ailleurs, toutes ces décisions, elles ont un impact sur les prix. Il y a un prix, cette guerre. Il faut être clair.
Et c'était Patrick Pohyanné, donc le président, directeur général, le PDG de Total Energy. D'ailleurs, ce groupe Total Energy qui annonce par ailleurs porter plainte en diffamation contre Yannick Jadot.
Accusé par le candidat écologiste à la présidentielle française de complicité de crimes de guerre en Ukraine pour ses activités en Russie, le patron du groupe, donc Patrick Pohyanné, que vous venez d'entendre, dénonce des propos insultants pour tous les salariés de l'entreprise. Mais Yannick Jadot, malgré cette réaction, maintient ses accusations.
J'accuse l'entreprise Total Energy d'être complice des crimes de guerre qui sont perpétrés en Ukraine, en ayant parfaitement connaissance des atrocités qui sont menées en Ukraine, en travaillant avec des groupes économiques proches du pouvoir de Poutine, en travaillant avec des oligarques qui sont visés par les sanctions internationales. Le groupe Total ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Je persiste et signe, et donc je n'ai aucune difficulté, en vrai, à être attaqué par Total. Nous l'avons toujours été. Les écologistes ont toujours été attaqués par les lobbies parce qu'ils veulent changer le système.
Yannick Jadot qui accuse également Emmanuel Macron de complaisance et estime que c'est à lui, Emmanuel Macron, donc, d'imposer le retrait de Total de Russie.
Ouais, il faut se rappeler qu'il y a une campagne électorale en France. Alors après s'être exprimé face à la France, Volodymyr Zelensky a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux, vidéo dans laquelle il demande aux citoyens du monde entier de descendre dans la rue.
Une vidéo dans laquelle la mise en scène n'est pas anodine du tout, hein, lui-même dehors, sans protection apparente bien sûr. Face caméra, toujours vêtu de son t-shirt kaki en tant que chef de guerre, il appelle à des manifestations mondiales un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe. C'était le 24 février.
Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life. Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. From March 24th, in downtowns of your cities, all as one together who want to stop the war.
Et c'était le président ukrainien, donc Volodymyr Zelensky. Un mois de guerre et les Occidentaux qui s'apprêtent à serrer une nouvelle fois la vis à Moscou.
Et pour ce faire, le président Joe Biden a décidé de se rendre lui-même en Europe. Il est arrivé à Bruxelles il y a quelques heures pour une série de réunions diplomatiques. L'objectif est d'aboutir à de nouvelles sanctions contre la Russie. On fait le point avec Guillaume Nodin, correspondant à Washington pour Radio France Internationale.
Ce sont trois sommets pas moins qui attendent le président américain, rien que pour la journée de jeudi. D'abord avec l'Alliance Atlantique, puis avec les membres du G7 et enfin en tant qu'invité au Conseil européen. L'objectif de Joe Biden, c'est de réaffirmer l'unité avec ses alliés et partenaires, unité qu'il met en avant depuis le début de la crise et de la guerre en Ukraine. Deux dossiers seront prioritaires lors de cette étape bruxelloise, l'adaptation sur le long terme du dispositif de l'OTAN sur le flanc est de l'Alliance Atlantique et les sanctions pour s'assurer de leur efficacité, pour qu'elles ne puissent être contournées et aussi pour les alourdir. Joe Biden va annoncer de nouvelles mesures, notamment contre les parlementaires russes. Il y aura aussi des discussions pour tenter de réduire la dépendance européenne au pétrole et au gaz russe et réduire les achats d'hydrocarbures. Sur ce point, la Maison-Blanche sait que c'est plus facile pour les États-Unis que pour l'Europe, mais veut explorer des solutions. Le reste du voyage conduira ensuite le président vers la Pologne, où il rencontrera des soldats américains stationnés dans le pays. Une rencontre avec le président polonais est également prévue, et nul doute que le thème de l'accueil et l'assistance aux millions de réfugiés qui ont fui l'Ukraine, notamment vers la Pologne, tiendra une place prépondérante.
Et c'était Guillaume Nodin pour RFI. Alors on vient de l'entendre, parmi les grands rendez-vous de la journée à retenir, il y a ce sommet extraordinaire de l'OTAN.
Ce sera cet après-midi, heure européenne, dans la nuit pour nous, ici en Australie. Les dirigeants des pays de l'OTAN, des pays alliés, vont pouvoir parler directement avec le président ukrainien, puisque là encore, Volodymyr Zelensky sera présent par visioconférence. La question maintenant, c'est de savoir ce qu'il va ressortir de ce sommet extraordinaire. Cela fait des semaines que Zelensky demande plus d'aide militaire, et notamment une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, mais aussi l'envoi de troupes européennes. L'OTAN refuse toujours catégoriquement. Qu'attendre aujourd'hui ? Juliette Gerbrand fait le point pour RFI.
S'il n'est pas question pour l'OTAN d'envoyer des soldats en Ukraine ni d'établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus du pays, comme l'a redit le secrétaire général de l'Alliance, cette dernière devrait annoncer un renforcement de son aide immédiate aux Ukrainiens en matière notamment de cybersécurité et d'équipement de protection face aux menaces radiologiques, nucléaires, biologiques et chimiques. Jens Stoltenberg prend cette dernière menace très au sérieux.
Nous sommes inquiets, parce qu'on voit la rhétorique. On voit que la Russie essaye de créer des prétextes pour nous accuser, nous et l'Ukraine, de préparer l'utilisation d'armes chimiques. Et nous sommes inquiets parce que nous savons que la Russie a déjà utilisé des agents chimiques, facilité leur usage en Syrie.
Et la Russie doit cesser d'agiter la menace nucléaire, une rhétorique dangereuse et irresponsable, dénonce Jens Stoltenberg. Les alliés devraient aussi confirmer l'augmentation du nombre de militaires déployés en Europe, une augmentation qui devrait s'inscrire dans la durée.
Nous faisons face à une nouvelle réalité concernant notre sécurité et nous devons donc repenser nos capacités de dissuasion et de défense à plus long terme.
Le nombre de bataillons déployés sur le flanc est de l'Alliance va doubler. Aux quatre présents dans les Pays-Baltes et en Pologne s'ajouteront désormais ceux de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Slovaquie.
Et c'était Juliette Gerbrand pour RFI. 13h11, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Alors vous venez de l'entendre, OTAN G7 ce jeudi, mais il y a également un G20 qui est prévu en novembre. C'est à Jakarta et ça pose déjà problème.
Oui, parce que Vladimir Poutine lui-même pourrait bien y participer. Il a été officiellement invité, annonce faite par l'ambassadrice russe en Indonésie, malgré les appels des autres dirigeants à exclure Moscou. On écoute la réaction de Scott Morrison. Il se dit inquiet. Le premier ministre australien s'est entretenu avec son homologue indonésien, Joko Widodo.
Russia has invited the Ukraine. I mean, this is a violent and aggressive act that shatters the international rule of law. And the idea of sitting around a table with Vladimir Putin, who the United States are already in the position of calling out war crimes in Ukraine, for me, is a step too far.
C'était le Premier ministre australien, vous l'aurez reconnu, Scott Morrison. Et dans ce contexte de guerre froide entre la Russie et l'Union européenne, eh bien Vladimir Poutine tape fort et il pose une sorte d'ultimatum aux fournisseurs européens pour leur futur contrat.
Vladimir Poutine qui vient d'annoncer que la Russie n'acceptera plus de paiements en dollars et en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne. Il donne une semaine seulement aux autorités russes pour élaborer ce nouveau système de transactions en roubles. On écoute le président russe.
Les États-Unis et l'UE ont fondamentalement manqué à leurs obligations envers la Russie. Et maintenant, tout le monde dans le monde sait, même si tout le monde s'en doutait déjà, que les obligations en dollars et en euros peuvent ne pas être remplies. Il est tout à fait évident qu'à cet égard, cela n'a aucun sens pour nous de livrer nos marchandises à la fois dans l'UE et aux États-Unis et de recevoir un paiement en dollars ou en euros ou dans un certain nombre d'autres devises. Par conséquent, j'ai décidé de mettre en œuvre dans les plus brefs délais un ensemble de mesures visant à transférer les paiements des pays inamicaux pour ce que nous fournissons et nous allons commencer par notre gaz naturel en roubles russes.
Coup de force et de pression ici de la part de Vladimir Poutine. Cette annonce a eu un effet immédiat. Le rouble s'est renforcé face à l'euro et au dollar alors qu'elle s'était totalement écroulée le jour de l'invasion en Ukraine.
Ouais, allez, on referme cette page consacrée à la Russie et à l'Ukraine avec une démission de marque au Kremlin. Un proche de Vladimir Poutine est parti en raison de son opposition à la guerre.
Anatoly Tchobaïs, ancien ministre de l'économie et jusqu'à peu envoyé spécial pour le climat, vous l'avez dit, proche conseiller de Vladimir Poutine. Sa démission est une perte de poids pour le Kremlin. Les explications d'Anissa El-Jabri, RFI.
Une silhouette au col relevé, le visage mangé par une casquette penchée sur un distributeur de billets quelque part à Istanbul. Voilà la fin de carrière d'Anatoly Tchoubaïs. C'est en tout cas ce qu'avance le journal Commerçante qui a publié la photo de cet ex-poids lourd de la politique russe. L'autre cliché qui circule beaucoup date d'il y a presque 30 ans. Le jeune Tchoubaïs, déjà influent, aux côtés d'un inconnu au visage émacié nommé Vladimir Poutine. Ancien ministre des Finances, responsable de l'administration présidentielle sous Boris Yeltsin, la star part des privatisations post-soviétiques et de ceux qui ont mis le pied à l'étrier à l'actuel président. Il était jusqu'à ce mercredi encore une des pièces du dispositif du Kremlin, mais une figure détestée de tous ceux pour qui les années 90 sont symbole de libéralisme sauvage et d'envol des oligarques. Dans un pays où le gaz et le pétrole sont une manne essentielle, Anatoli Tchoubaïs était ces dernières années aussi en charge de parler développement durable. Rien n'a filtré sur les raisons de son départ. Le porte-parole du Kremlin s'est contenté d'un laconique. Il a démissionné. Parti, pas parti du pays, c'est son affaire personnelle. Fin de citation.
Allez, dans le reste de l'actualité, on va parler de l'épidémie du coronavirus.
Une épidémie qui repart à la hausse, notamment ici en Australie. Le nombre de cas positifs augmente, mais le nombre de décès enregistrés liés au Covid-19 reste pour le moment stable. Pour vous donner une idée des chiffres, le Victoria, par exemple, dénombre plus de 10 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures et 11 décès. 244 personnes sont toujours hospitalisées. Et plus au nord, en Nouvelle-Galles du Sud, 8 personnes ont perdu la vie en une journée. L'État enregistre près de 25 000 cas, 1180 patients sont à l'hôpital.
Et la reconnaissance vient un peu être vue également en France.
Après une période d'accalmie, l'Hexagone se rapproche à nouveau des 100 000 cas quotidiens. La France, qui pourtant a allégé de beaucoup ses restrictions sanitaires mi-mars, fin du pass vaccinal et du port du masque obligatoire en lieu clos, sauf dans les transports et les hôpitaux notamment, une hérésie pour nombre de scientifiques pour qui il était encore bien trop tôt. Parmi eux, le professeur Antoine Flahaut, on l'écoute.
La levée du port du masque obligatoire dans les lieux clos aura eu ou va avoir comme conséquence que des gens vulnérables, des gens non vaccinés ou des gens immunodéprimés ou parfois des gens très âgés qui ont une certaine immunosénescence vont peut-être, à cause de cette levée du port du masque, faire plus facilement des formes graves qui peuvent mener à l'hospitalisation, qui peuvent mener au décès. En fait, on aurait très bien pu conditionner ce type de mesures, de lever des mesures, à des indicateurs sanitaires. Et si on l'avait fait, on n'aurait jamais levé le port du masque en ce moment. C'est toujours difficile de réinstaurer des mesures une fois qu'on les a levées. C'est un peu le problème de lever des mesures, surtout lorsque ça n'est pas basé sur des indicateurs sanitaires, mais sur des dates de calendrier.
Allez, on reste à l'international, direction les États-Unis, où un grand nom de la politique américaine s'est éteint.
Madeleine Albright, chef de la diplomatie entre 1997 et 2001 dans l'administration Clinton, elle est décédée des suites d'un cancer. Une voix passionnée pour la liberté, la démocratie, les droits humains, sa mort est une perte immense pour le monde à un moment où nous avons le plus besoin des enseignements de sa vie. Voici l'hommage de Bill Clinton. Bill Clinton, ancien président démocrate qui avait fait de Madeleine Albright la première secrétaire d'État américaine. Guillaume Nodin, RFI.
La vie de Madeleine Albright est marquée par la diplomatie. C'est déjà le métier de son père lorsqu'elle voit le jour à Prague en 1937 dans une famille juive convertie au catholicisme pour éviter les persécutions antisémites. En 1948, après la prise de pouvoir communiste, la famille s'exile aux États-Unis. C'est à la fin des années 70 qu'elle s'engage en politique au sein de l'administration Carter. En 1993, au retour des démocrates au pouvoir, Bill Clinton la nomme ambassadrice aux Nations Unies. À ce poste, il lui est reproché d'avoir tardé à intervenir contre le génocide des Tutsis au Rwanda. Elle devient ensuite la première femme chef de la diplomatie américaine et elle est en fonction lorsque débute la guerre au Kosovo, puis l'intervention de l'OTAN sous mandat de l'ONU. Elle fera sa priorité du renversement du président serbe Slobodan Milosevic au nom de la démocratie et des droits humains. À la fin du mandat de Bill Clinton, elle est approchée par le président tchèque Václav Havel pour prendre sa succession. Elle décline et préfère rester aux États-Unis qu'elle appelle la nation indispensable. Elle soutient les candidatures présidentielles d'Hillary Clinton car, disait-elle, il existe une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes.
Allez, coup d'œil météo maintenant à Perth. Il fera 32 degrés aujourd'hui. Adélaïde, il fera 23. Melbourne, 20 degrés. Hobart, 20. Canberra, 22. Sydney, 22. Brisbane, 29. Cairns, c'est là où il faut être, hein, 31 degrés. Et Darwin, 33 degrés.
Le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Volodymyr Zelensky qui appelle les citoyens du monde entier à manifester dans les rues un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe. Joe Biden qui est arrivé à Bruxelles pour une série de rendez-vous diplomatiques. Et enfin le Covid qui repart à la hausse, notamment en Australie et en France. Les scientifiques dénoncent un allègement des restrictions trop précoce.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, c'est le journal des sports que vous avez préparé, Christophe. Et vous allez notamment nous parler d'Ash Barty, qui a annoncé sa retraite un peu par surprise.
Oui, tout à fait. C'est une surprise. On va voir ça tout de suite dans le journal des sports. Journal des sports, et on débute ce journal des sports avec eh bien, du tennis et la nouvelle de la semaine. Ash Barty, la numéro 1 mondiale australienne, eh bien, a décidé de prendre sa retraite à 25 ans. On écoute les mots d'Ash Barty.
I kind of wasn't quite sure how I was going to do this, but I think there's no right way, there's no wrong way. It's just my way. And this is perfect for me. To share it with you, to talk to you about it, with my team, my loved ones, that I'll be retiring from tennis. And it's the first time I've actually said it out loud, and it's hard to say. But I'm so happy, and I'm so ready, and I just know at the moment, in my heart, for me as a person, this is right. And I know I've done this before, but in a very different feeling, and I'm so grateful to everything that tennis has given me. It's given me all of my dreams plus more, but I know that the time is right now for me to step away and chase other dreams, and to put the rackets down.
Voilà donc Ash Barty qui décide de prendre sa retraite alors qu'elle est encore au top de son art. C'est la première fois qu'un vainqueur ou une vainqueur de Grand Chelem eh bien, prend sa retraite directement après une victoire dans un tournoi de Grand Chelem depuis 2002 et Pete Sampras. Autant dire que c'est une énorme nouvelle. Petit décryptage des raisons de cette décision par Ash Barty avec Craig Gabriel, le commentateur sportif.
She's given it everything, physically, emotionally. She's gone to the absolute limit that she can go. And while we're all sad and disappointed that we're not going to see her around on the tour, at the same time, you've got to feel so happy for her.
Voilà donc Craig Gabriel qui nous parle d'Ash Barty. Ash Barty qui donc prend sa retraite avec 3 grands chelems à son compteur et surtout une très belle carrière derrière elle dans le tennis et une très belle carrière devant elle, quoi qu'elle fasse. Ash Barty. À noter que Swiatek, la polonaise, devrait maintenant passer numéro 1 mondial si Ash Barty demande d'être retiré des classements. On en saura un petit peu plus dans les jours à venir. Un mot football, la France rencontre la Côte d'Ivoire ce vendredi. Effet marquant, Koeman sera de retour sous le maillot des Bleus. Koeman qui n'a pas joué avec les Français depuis 2015. Allez, un mot de cyclisme et la Volta à Catalunya qui se déroule donc en Espagne en ce moment. Un tour très intéressant que vous pouvez d'ailleurs suivre à l'antenne de SBS. Très intéressant puisque, eh bien, troisième jour de ce tour et troisième victoire d'un Australien différent dans ce tour. C'est n'était jamais arrivé auparavant d'avoir 3 coureurs australiens qui gagnent les 3 premières étapes d'un tour comme celui du Tour de Catalogne. On écoute Ben O'Connor.
It's been a little bit hard the last month because I got very sick, so to come back now and win again is amazing, and every year I set myself a goal to win, and yeah, it's nice to get it done early in the year. Yeah, I mean, I've been very confident this week because I know that my form was there, so I didn't expect to be solo. I was hoping some guys would come with me, but in the end, I just had to go myself, and I was lucky to hang on. Yeah, I mean, it's a tricky race, and always in Barcelona it's super hard, but yeah, I'll do my best, and I'm confident I can hold the lead.
Voilà, donc Ben O'Connor qui prend d'ailleurs le maillot de leader de ce Tour de Catalogne. Et Ben O'Connor, vous vous en souvenez peut-être, il avait fini quatrième du Tour de France l'année dernière. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste de l'émission. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. À tout de suite.
French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Et c'était Julien Doré avec Paris Seychelles, chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mars. Il est 13h28. On fait une courte pause et on parle d'économie avec Nicolas Perpich tout de suite après ça.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Et comme chaque semaine, on va parler d'économie avec Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Et d'économie à travers l'Australie et le coût de la vie. Alors le coût de la vie, c'est un casse-tête pour tout le monde à travers la planète. C'est aussi un casse-tête pour l'Australie et surtout pour les gens qui ont des revenus moyens. Et je pense qu'il y a eu une étude sur les personnes, enfin, les aides-soignantes et les soignants aux personnes âgées qui ont déjà été d'ailleurs très 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 affectées durant le Covid. Et là, du coup, le coût de la vie, ils sont encore plus affectés.
Oui, exactement, exactement. On a déjà parlé la semaine dernière du coût de la vie qui monte là, du problème de l'inflation, l'essence qui coûte de plus en plus cher, les fruits, les légumes, tout. Et là, il y a une étude et ça montre que bon, les soignants aux personnes âgées, à la fin de la semaine, ça les laisse avec très peu d'argent. En fait, cette étude montre que un soignant qui travaille avec les personnes âgées et qui n'a pas de conjoint ou qui n'a pas d'enfant, à la fin de la semaine, ils ont 112 dollars pour payer leur loyer, leur transport, les courses, aller voir le médecin. Donc vraiment pas assez en fait. Par contre, c'est quelqu'un qui a des enfants, eux à la fin de la semaine, ils ont 148 dollars. Donc vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est malgré le fait qu'à peu près 70% des soignants sont des professionnels avec ce qu'on appelle un Certificate 3 qualification. Mais même avec ça, ça veut dire qu'ils gagnent 770 dollars chaque semaine après les impôts. Donc vraiment très, très peu. Et il y a une organisation qui regroupe six autres organisations dans ce secteur qui s'appelle The Australian Aged Care Collaboration. Et c'est eux qui ont examiné l'impact du coût de la vie et de l'inflation sur ces gens-là. Et ils ont trouvé que, pas de surprise, que les salaires ne sont pas assez importants, pas assez hauts pour vivre correctement. Et donc, c'est presque inévitable que ces gens-là vont avoir des sérieuses difficultés financières, en particulier en ce moment, après le Covid, avec le coût de la vie qui monte et qui monte, qui va certainement être une des questions les plus importantes aux élections fédérales qui vont venir là avant la fin du mois de mai. Pour ces gens-là, c'est presque impossible d'économiser de l'argent. Et donc, en fait, le Fair Work Commission est en train justement d'enquêter sur cette question, de voir s'il devrait être mieux payé et par combien. Mais en même temps, il y a un autre groupe qui s'appelle The Aged and Community Services Australia. Et eux, ils ont signalé que si rien ne change, ces soignants vont inévitablement quitter la profession parce que c'est pas possible. Donc, ils vont trouver d'autres travails ou chercher d'autres travails mieux payés ailleurs. Et ça serait un énorme problème parce que déjà dans ce secteur, il y a pas assez de gens pour travailler. C'est très difficile d'attirer des gens si on est si mal payé. il y a tellement d'incertitudes et ils savent pas si ça va s'améliorer, et avec les risques de Covid aussi. Donc avant les élections, il y a ces organisations, The Australian Aged Care Collaboration, ils ont fait appel à tous les partis politiques de mieux financer ce secteur. Déjà, le Parti travailliste Labour a dit que oui, ils sont d'accord que ces gens devraient être mieux payés, mais ils n'ont pas dit combien. Combien de plus. Et le gouvernement, le Liberal National Coalition, eux, ils ont dit qu'ils vont laisser cette décision au Fair Work Commission. Donc tout le monde attend la décision du Fair Work Commission, mais après ça, le gouvernement, c'est pas assez que le Fair Work Commission dise ça, il faut aussi que le gouvernement soit d'accord. Donc c'est vraiment pas facile en ce moment pour beaucoup de gens dans l'économie.
Ouais, c'est sûr que c'est une situation qui n'est vraiment, vraiment pas facile à travers le monde, et on le voit aussi donc dans nos sur nos terres australiennes. Et une autre situation qui est un peu un relan également du Covid, je suppose, c'est si j'achète une voiture aujourd'hui, le délai de livraison, il est juste incroyablement long, et donc du coup, ça fuel un marché de la deuxième main qui doit être vraiment qui rend en feu en fait.
Et voilà, tout à fait. Par exemple, moi, je connais des amis qui ont commandé une nouvelle voiture il y a des mois et des mois. On leur avait dit ça va venir dans 2-3 mois, ça va venir en janvier, c'est pas venu. Ils ont dit ça va venir en mars, c'est pas venu. Ils attendent encore. Et donc, en fait, on peut attendre maintenant 12 mois, un an, pour que des voitures viennent, certains modèles, certaines compagnies, pour que ça arrive en Australie. Et 12 mois, c'est vraiment une situation sans précédent, parce que avant la pandémie, on attendait à peu près 4 mois. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et la raison principale pour ce délai, c'est un manque autour du monde des micro-puces et aussi des semi-conducteurs. Parce que les voitures modernes, il y en a des centaines des micro-puces et semi-conducteurs dans les voitures. C'est comme des petits ordinateurs, des petites cervelles qui font marcher la voiture, les différents morceaux de les différentes parties de la voiture. Et c'est un problème qui atteint toutes les grandes marques de voitures autour du monde. Et par exemple, on a vu qu'en février, Toyota a annoncé qu'ils allaient couper la production de leurs voitures par 150 000. General Motors a fait la même chose, Kia et aussi Opel. Et en France, Peugeot, ils ont même commencé, à cause de ce problème, à installer des compteurs de vitesse analogues, pas numériques, parce qu'ils n'ont pas les comportements, ils n'ont pas les micro-puces nécessaires. Donc ça, c'est assez incroyable. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que les fabricants de voitures ont commandé moins de produits comme ça pour construire les voitures, parce qu'il y avait moins de demandes pendant la pandémie, et donc il y en a moins qui ont été fabriqués, et aussi ils en ont reçu moins, ils n'ont pas encore rattrapé ce délai, et donc ça rajoute au problème. En plus, maintenant il y a la guerre en Ukraine qui crée des problèmes, parce que c'est de l'Ukraine que vient beaucoup du produit de néon qui est essentiel pour les micro-puces. Donc ce marché-là, bien sûr, il y a des énormes difficultés, et on peut pas remplacer ça avec d'autres choses, le néon. Donc il faut avoir le néon. En même temps, c'est vrai que le prix d'une voiture d'occasion, ça grimpe comme on n'a jamais vu. C'est 50% de plus qu'avant la pandémie pour acheter une voiture d'occasion, au moins, même plus, si on veut, par exemple, une 4x4 ou des voitures pour faire des longs voyages autour de l'Australie. Même pour une nouvelle voiture, c'est 25% plus qu'avant la pandémie. Donc, c'est compliqué, là.
Ouais, ou alors il faut faire du vélo, ça dépend.
Voilà, du vélo, encore une fois, le vélo.
Voilà, merci Nicolas.
Merci Christophe.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Qui ne finira
C'était la chanson « L'histoire d'un amour » chantée par Gloria Lasso, merveilleuse chanson. 13h40 sur SBS French, tout de suite une interview faite par Thomas Mercier. C'est l'association Melbourne Accueil qui fête ses 10 ans, l'occasion pour SBS French d'avoir rencontré sa présidente.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Aujourd'hui, sur SBS Radio, on reçoit Sabrina. Sabrina, qui est la présidente de Melbourne Accueil, une association bien connue de la communauté francophone. Bonjour Sabrina.
Bonjour Thomas.
Alors, en quoi consiste votre association, pour ceux qui ne la connaissent pas ?
Alors, Melbourne Accueil, c'est une association à but non lucratif. Nous sommes affiliés depuis 2011 au réseau de la FIAF. Et la FIAF, c'est la Fédération internationale des accueils francophones à l'étranger. Parce qu'il y a plein d'accueils, en fait, partout dans le monde et aussi en Australie. Mais nous occupons de Melbourne. Alors, concrètement, en fait, cette association, elle s'adresse à tous nouveaux arrivants à Melbourne, francophones et francophiles, qui souhaitent s'intégrer rapidement à la vie australienne, à Melbourne. Et puis, bien sûr, nous répondons à toutes les questions et nous essayons de leur créer un nouveau réseau social.
Comment ça fonctionne si on souhaite vous contacter ? Par quel biais on peut vous contacter assez facilement ?
Oui, donc nous avons plusieurs façons. Nous avons un site internet qui est melbourneaccueil.com. Là, nous avons une adresse email contact et puis les gens peuvent avoir un petit peu, une bonne impression de ce que nous faisons, puisque nous décrivons tout ce que nous faisons à l'association. Mais sinon, nous avons aussi une page publique Facebook, Melbourne Accueil, voilà. Et là, vous pouvez aussi nous contacter via Messenger.
Et une fois que les personnes vous contactent, quel type de service vous proposez à Melbourne Accueil ?
Oui, alors en général, ça commence avant l'arrivée à Melbourne. Les familles nous contactent par email et nous proposons un coup de fil ou un Zoom pour pouvoir les aider dans leur projet et leur préparation de voyage. Et puis ensuite, une fois arrivées à Melbourne, elles peuvent nous rejoindre en tant que membres. Et donc, la cotisation familiale est de $40 pour l'année. Et là, nous pouvons les soutenir pour les conseiller dans leur choix de logement ou dans le choix des écoles et aussi, bien sûr, leur créer un réseau social. Puisqu'à Melbourne Accueil, en fait, la mission principale, c'est que les gens s'intègrent rapidement dans la culture australienne. Et donc, nous organisons des activités afin que les membres puissent se rencontrer et partager des bons plans.
Quel type d'activité vous proposez, justement ?
Alors, les activités sont des activités sociales ou culturelles. Dans les activités sociales, nous avons un café-rencontre mensuellement ou alors un apéritif aussi. Donc, chaque mois, ce sont les deux activités récurrentes. Et puis, bien sûr, selon nos bénévoles, puisque nous avons une vingtaine de bénévoles qui organisent ces activités, nous proposons, par exemple, cette semaine, la visite de l'exposition Van Gogh au Loom, ou aussi un café de conversation bilingue. Donc, si les membres veulent pratiquer leur anglais, ils ont l'opportunité d'apprendre un petit peu de grammaire et de vocabulaire en parlant avec des Australiens.
Alors, vous proposez justement des renforcements pour ceux qui ont peut-être des difficultés à s'exprimer en anglais. Alors, vous avez dans votre groupe de bénévoles, vous avez des Australiens ?
Oui, tout à fait. Donc, nous avons une majorité de francophones et francophiles, mais nous avons aussi des familles qui sont à Melbourne de longue date et ce sont aussi des familles mixtes.
Alors Sabrina, depuis les deux dernières années, vous ne deviez pas avoir beaucoup de familles à accueillir. Comment avez-vous géré avec Melbourne Accueil cette période de transition, cette période, on va dire, assez exceptionnelle pendant la pandémie ?
Oui, c'est vrai que pendant les deux dernières années, les frontières étant fermées, l'arrivée de nouvelles familles s'est fait rare. Mais par contre, nous avons accueilli de nouvelles familles au sein de l'association qui sont là en fait depuis très longtemps à Melbourne, des mariages mixtes franco-australiens principalement et des gens qui avaient envie de se rapprocher de la culture française pour eux-mêmes et puis aussi pour faire quelques activités car nous avons eu comment dire, nous avons une vingtaine de bénévoles actuellement dans l'association et grâce à eux, nous avons organisé plein d'activités sur Zoom. Donc, nous avions des cocktails, des soirées cocktails où chacun apprenait à faire un cocktail, où nous avons des soirées caout aussi, un petit peu trivial poursuite, que nous avons organisées et aussi des cours de cuisine. Donc, vraiment, nous avons été très, très dynamiques pendant ces 2 ans et les familles qui ont participé ont, je pense, beaucoup apprécié le soutien. Car c'est vrai, étant loin de leur famille eux-mêmes, ça devait être très très difficile.
Et donc Melbourne Accueil vient de fêter ses 10 ans. Organisez-vous quelque chose pour fêter ses 10 ans ?
Oui, tout à fait. Donc samedi prochain, le 26 mars, nous organisons une soirée cocktail dînatoire et puis dansante, bien évidemment, avec de belles chansons et de belles musiques pour passer un bon moment tous ensemble. Vous pouvez réserver vos tickets sur un lien Tribooking qui est sur notre site internet melbourneaccueil.com ou alors sur notre page Facebook publique. Et nous avons aussi plein de lots pour organiser la tombola et faire 2 regagnons ce soir-là.
Merci beaucoup Sabrina.
Bah, je vous en prie, merci beaucoup Thomas.
Et à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
13h47 sur SBS French, vous écoutez votre programme en français. L'actualité est toujours largement consacrée à la guerre en Ukraine et la ville portuaire d'Odessa, située tout à l'ouest sur la côte sud du pays, se prépare face aux éventuelles attaques russes. La ville elle-même est protégée, barricadée, mais son front maritime reste lui très exposé. Reportage.
Odessa, la perle de la mer Noire, est un port que Vladimir Poutine aimerait voir chuter. Son exposition sur la baie n'est pas un problème. Le système de défense du front maritime est opérationnel selon Sergei Bratchouk, le porte-parole du port d'Odessa.
Nous avons suffisamment de ressources pour accueillir les Russes avec dignité, pour leur dire « Bienvenue en enfer ». Je ne peux pas donner de détails, mais ils les sentiront. Les vaisseaux russes se sont rapprochés de la côte, mais ce sont des lâches. Ils ne s'approchent pas suffisamment pour que l'on puisse les brûler. Ils essayent de montrer qu'ils sont là, mais seulement pour exercer une pression psychologique.
Odessa s'est métamorphosée de ville touristique, elle est devenue ville guerrière. La cité est barricadée et les militaires ont miné les plages afin de repousser un arrivage russe par la mer, explique Sergueï, le soldat en charge des opérations.
Tout ce que vous voyez là, ce n'est qu'une partie de notre système de défense. Le reste, vous ne pouvez pas le voir. Mais tout est important. Le centre, le front de mer, tout. Nous avons suffisamment de défense maritime. La raison pour laquelle les Russes tournent en rond dans la mer, c'est parce qu'ils savent que poser un pied sur nos plages serait une mission suicide.
Les vagues claquent contre la digue d'une plage d'Odessa. Ici, les habitants, comme nous le dit Albina, ont confiance en leurs soldats.
Ils protègent le bord de mer. On a fait un voyage le long de la côte une semaine avant le début de la guerre et déjà l'armée était en train de construire des fortifications sur une distance de 60 km.
Au yacht club d'Odessa, une pelleteuse est au travail. Des dizaines de volontaires viennent chaque jour depuis plus de 2 semaines pour préparer les nombreuses barricades de la ville, comme nous l'explique Valérie.
Les gens avaient fait un travail formidable pour protéger Odessa pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, nous sommes encore mieux préparés, car nous avons toutes les informations et toutes les ressources nécessaires. L'armée nous conseille sur la meilleure manière de les aider.
Les sacs de sable se remplissent et s'empilent sur la plage. Les volontaires ont formé une chaîne pour se les passer de bras en bras. Tania en réceptionnant.
Nous préparons des sacs remplis de sable pour les barricades, pour les checkpoints, pour protéger les hôpitaux. Nous avons un dicton, un sac de sable peut sauver une vie.
La perle de la mer Noire résiste toujours et chaque jour, ses défenses se renforcent grâce à l'union des citoyens et des forces militaires.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Thank you.
partait ensemble.
Et c'était Salomé Leclerc et cette chanson Partir Ensemble qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mars. Je vous rappelle, toutes nos sélections musicales sont disponibles sur Spotify avec un best-of de nos meilleurs podcasts. Il faut simplement chercher notre playlist pour le mois donc de mars 2022. 13h54, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui avec Marianne.
Volodymyr Zelensky qui appelle les citoyens du monde entier à descendre dans la rue et à manifester un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden, le président américain, est arrivé à Bruxelles pour une série de rendez-vous diplomatiques. G7, sommet de l'OTAN, sommet de l'Union européenne. Les Occidentaux s'organisent pour accroître les sanctions contre la Russie. Et enfin, le coronavirus qui repart à la hausse en Australie mais aussi en France. Des scientifiques dénoncent un allègement des restrictions sanitaire qu'il juge trop précoce.
Merci Marianne d'avoir fait ce journal, nous avoir accompagné pour cette heure en français sur SBS.
Merci à vous Christophe.
Le prochain rendez-vous avec le français, c'est bien entendu samedi et dimanche à 13h. D'ailleurs, samedi, on a une émission spéciale avec notre députée française des Français de l'étranger, Anne Genetet, qui sera là. Ce sera une émission très spéciale. Voilà, notre site internet sbs.com.au/french, notre Facebook, nous sommes @sbsfrench pour nous poser toutes les questions si vous avez des questions pour Anne Genetet. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table à samedi. Why does my heart?
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.